Si on veut changer, il faut qu'on ait une politique territoriale qui anticipe ce changement-là. J'ai chiffré un dernier chiffre, c'est qu'aujourd'hui, les gens l'attendent, cette politique, ils l'anticipent eux-mêmes. On a des chiffres TER sur la droite hermontoise, avec des pourcentages d'augmentation du trafic à deux chiffres, alors que l'offre a baissé. C'est un peu un paradoxe.
On aurait deux chiffres en deux secondes. Quand vous discutez avec les pouvoirs publics, ils ont une idée de nous à 100 000 habitants. Quand on leur explique que la métropole c'est 700 000, ils font un temps de conviction de où on part. Et évidemment, ça prend une certaine taille. Et la deuxième chose, et ça m'a été dit, je vais le répéter, dans une discussion que j'ai eue avec une personne responsable de ce dossier, ils m'ont dit oui, mais vous comprenez, par rapport à un TGV, c'est pas spectaculaire. Vous avez le droit qu'il vous tombe.
Alors, je vais maintenant tourner vers Aurore, peut-être. Sauf si, non parce que... Donc, avec Aurore, on est plus sur le mode voiture, globalement. Donc, il y a quand même des gens qui vont venir en voiture. On espère qu'ils vont venir à des voitures peu polluantes. Voilà. Donc, est-ce que, justement, dans toutes ces voies d'acheminement vers le Massif central, je ne crois pas seulement dans le Massif central, mais vers le Massif central, on veut dire qu'on dispose d'infrastructures, d'alimentation électrique adéquate, etc., etc., de façon à ce que là encore les gens n'aient pas la perception qu'en faisant voyage vers le Massif central, ils vont partir au milieu du désert. Hein?
Alors, déjà en introduction, je voudrais dire qu'au sein de la mer Auvergne-Rhône-Alpes, on souscrit totalement à ce qui a été dit, hein, que la voiture, c'est pas la meilleure solution, que d'abord il faut qu'on pense transport en commun, train, etc. Et une fois qu'on a vu toutes les solutions qu'il y a de covoiturage, de partage, qu'on ne peut pas faire autrement, effectivement, il faut qu'on possède un véhicule. Et la voiture électrique, c'est aujourd'hui la solution en termes de mobilité individuelle. Alors, mobilité individuelle avec moteur, on va dire, qui a le moins d'impact au niveau bruit, qualité de l'air et puis carbone. Alors, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la région la deuxième région la mieux dotée de France après l'Île-de-France en termes d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. C'est vrai que ces chiffres sont quand même plutôt portés par l'ancienne région Rhône-Alpes et moins par la région Auvergne. Je disais jusqu'à il n'y a pas très longtemps qu'aujourd'hui c'était plus facile de venir, moi je viens de Saint-Étienne, de venir de Saint-Étienne à Clermont-Ferrand qu'il y a encore un an. Mauvaise expérience de ce matin. Pour venir de Saint-Étienne, on a une seule station. On a de plus en plus de bornes de recharge hein, pour venir sur Clermont, mais ce matin, deux stations étaient en panne. Donc mauvaise expérience. Alors après, toutes les aires d'autoroute sont équipées, on va dire, à 99% aujourd'hui de bornes de recharge. Par contre, effectivement, ça fonctionne. Il y a beaucoup de tous les syndicats d'énergie sont en train de terminer, soit de mettre en place un nouveau schéma directeur en termes d'installation de bornes de recharge. Donc ça va aller de mieux en mieux. Voilà, par contre, il faut faire attention aux grands axes pour qu'on puisse rentrer sur les territoires. Là, je parle de grande itinérance, parce que plus de 80% des recharges se font soit en entreprise, soit à domicile. Donc en réalité, les territoires ruraux se prêtent tout à fait à la mobilité électrique, puisqu'on a une grande partie d'habitat individuel. Il est facile d'installer une petite prise ou une borne de recharge chez soi pour refaire son plein la nuit, et encore, on n'a pas besoin de refaire son plein toutes les nuits, pour ensuite repartir au travail dans un an. Donc pour répondre à la première question, oui, c'est quand même plus facile de se déplacer sur la région Auvergne et qu'il y a en voiture électrique qu'il y a quelques années, sauf qu'à particulier quand il y a des batteries.
Et dans les autres axes, en venant de l'ouest, en venant du sud, est-ce que
Paraissait
récemment les Cévennes, je ne voyais pas beaucoup de stations de recharge.
Alors comme je vous disais, hein, toutes les régions ne sont pas dotées de la même manière. Côté Rhône-Alpes, on a de la chance, on peut se déplacer facilement. Côté Auvergne, ça va un peu mieux. Mais effectivement, il y a des régions plus au sud où c'est compliqué. Faire par exemple Clermont-Limoges, on n'a pas beaucoup d'aires d'autoroute. Il faut que les bornes fonctionnent. Alors après, il faut aussi faire l'effort de, quand on attend, de sortir des grands axes routiers, pour trouver des bornes de syndicats d'énergie, de collectivités. Mais voilà, ça demandera des bornes.
Bien sûr. Je vais te donner un moment de en tant que président de la commission, je rentre maintenant dans le Massif central. Hein. Quels sont les grands axes de développement de mobilité qui sont actuellement?
Eh bien, ça a été dit tout à l'heure, il y a le socle
à l'intérieur
du Massif, et c'est ce à quoi nous travaillons avec la commission mobilité du comité de Massif. Une des priorités qui a été donnée, ça a été cité tout à l'heure à travers le train. Il faut savoir que c'est dans cette commission de mobilité que nous avons été les premiers à penser au train léger, déjà un moment, et maintenant le train léger est en train d'être mis en place par la SNCF, tout simplement parce qu'une norme la SNCF fait qu'avec des locomotives qui pèsent 55 tonnes, il faut des voies qui sont surdimensionnées, alors qu'on n'a pas besoin de locomotives de 55 tonnes pour tirer finalement avec des nouveaux matériaux beaucoup moins lourds. Donc on s'est attaché là-dessus. Ensuite, on est parti aussi sur les véhicules autonomes, et notamment l'expérience de Néry, une expérience extrêmement intéressante. On mélange maintenant, parce qu'il y a beaucoup de voies vertes qui se mettent en place sur le Massif central, et bien qu'on puisse avoir sur ces voies vertes à la fois les véhicules autonomes et les piétons, des enfants, des trottinettes, qu'on puisse faire fonctionner les uns des autres. Et là, c'est un beau sujet d'expérimentation.
Les voies vertes sont une utilisation d'anciennes
voies ferroviaires. C'est du côté du ferroviaire. On travaille aussi beaucoup sur le stress. Mais là, on se heurte à un géant qui s'est appelé la SNCF et qui a mis tous les bâtons dans les roues, parce que la SNCF avait un projet de fret qui consistait à dire on peut faire du fret partout, sur tous les pays, sur toutes les régions de France et notamment sur le Massif central, à condition qu'on vous paye. C'était pas le service rendu qui payait, mais c'était la collectivité qui devait payer pour le fret. Donc ça s'est un petit peu avancé avec notamment la création d'un opérateur fret sur le 620 qui s'appelle Ferrovert, mis en place à partir des initiatives et grâce à un préfet qui a été très dynamique sur le sujet pour mettre en place cet opérateur ferroviaire qui fait du fret sur le 620. Ensuite, on s'est travaillé aussi sur la mobilité numérique qui a été faite depuis des années pour l'ouverture numérique du territoire était extrêmement, extrêmement importante. La mobilité numérique. Et puis, ce qui est en jeu, je pense, des années à venir, c'est pour ça que ça rejoint clairement le capital de la culture, je crois que l'enjeu sur le territoire du Massif central, c'est un enjeu d'ouverture. Un enjeu d'ouverture des esprits. Un enjeu d'ouverture des esprits, et c'est pour ça que pour moi la culture, c'est l'ouverture. Et donc, c'est naturellement qu'on se sente dans ces régions ouvert aux autres régions. Quand on voit tout à l'heure qu'on nous dit, ce que l'on sait très bien, c'est qu'on a coupé la liaison avec Saint-Étienne d'un côté, on a coupé la liaison avec Bordeaux de l'autre, coupe la liaison au sud, et c'est pas de l'ouverture. Il faut qu'on puisse passer d'un endroit à l'autre avec des moyens modernes que sont ces nouveaux trains. Et donc il faut qu'on se batte pour ça, et donc cette ouverture à la culture, elle est essentielle, et donc parce que c'est ce qui va conditionner la qualité de vie des gens qui vivent sur ces territoires. Empêcher ce qui a été trop longtemps le comportement de ces populations de se replier sur soi, avec un sentiment d'être en échec parce qu'on habite sur des territoires ruraux. Alors qu'il faut redonner de fierté à ces habitants du territoire d'être sur ces territoires parce qu'ils ont des richesses naturelles, parce qu'ils ont des cultures et des états d'esprit qui sont vraiment dans l'air du temps maintenant, et donc se lier à Clermont Capital la culture, pour moi c'est absolument essentiel pour donner une autre vision, un autre rêve, un autre espoir aux populations qui sont sur le Massif central.
Monsieur le commissaire tout à l'heure disait que, si j'ai bien noté, 14 conseils départementaux sur 22, avaient adhéré, donc c'est déjà une force assez colossale. Est-ce que est-ce qu'il y a un cénacle, je dirais, où ils travaillent un petit peu ensemble pour porter quelques innovations, quelques dossiers majeurs, précisément, qui aillent dans le sens de ce qu'évoque André. Ouverture, innovation, etc. Est-ce que...
Bon, je suis convaincu que l'IRI va se passer quelque chose d'énorme en termes de dynamique le 13 décembre au soir. C'est-à-dire qu'une fois que Clermont-Est Central sera désigné capitale européenne de l'agriculture, bah, tout le monde va se pencher sur le verso très sérieusement et tout le monde va vouloir en être. Et après, et c'est là qu'on fait le lien avec Orbimop, bon, sur le sujet de l'humilité, qu'on va faire le lien avec d'autres acteurs, on travaille beaucoup avec le monde agricole aussi, parce que la dimension agricole est très très forte dans l'identité culturelle du Massif central, mais et c'est là qu'on va pouvoir se tourner vers Orbimop et dire, parmi les très belles dynamiques structurées à l'échelle Massif central, il y a le sujet de l'humilité, et donc, cher président de conseil départemental, chers élus, chers présidents de PCI, etc., chers maires, vous pouvez aller challenger un petit peu ce tissu d'acteurs économiques, ce tissu d'acteurs académiques, voilà, tout ce que vous constituez, enfin, tout ce que vous êtes en tant que constituant d'Orbimop pour qu'on travaille d'ici 2028, à apporter des réponses sur les territoires ruraux qui vont permettre de transporter tous ces publics qui vont venir voir la capitale européenne de l'agriculture. Et je trouve assez drôle, hein, c'est que la temporalité, finalement, correspond bien aux objectifs d'Orbimop. C'est-à-dire que Orbimop, je me souviens, évidemment, Patrick, vous nous rappelez ça, c'est 2027 d'horizon. Voilà, après, je sais trop bien. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, voilà, c'est un objectif de changement rapide. Et bien voilà, fixons-nous d'ici 2027, donc d'ici 2028, eh bien, d'avoir échafaudé des solutions complètement innovantes. C'est, ça va être ça aussi, hein, la capitale européenne de la culture. Ça va être la manière de produire de la culture de manière complètement nouvelle. C'est-à-dire dans des territoires, pas dans du tout, où la question qui va se poser, c'est comment on fait venir la culture, peut-être décentralisée vers les territoires ruraux, mais surtout comment on fait s'exprimer, je vais pas bien parler de ça, pas votre place, hein, mais comment faire s'exprimer un potentiel culturel de ce territoire rural, pour qu'il rayonne à l'échelle nationale, internationale, etc. Mais là, le sujet de la mobilité, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il faut qu'on invente des formes de mobilité plus humaines, frugal, on a beaucoup insisté là-dessus, hein, mais le Massif central, c'est frugal, quoi qu'il arrive. La candidature de Clermont-Massif central, de capitale européenne de l'agriculture, ce serait une candidature frugale. On n'est pas capable de travailler à l'échelle de 85 000 km² avec un même niveau d'intensité culturelle que ce qu'il y a eu lors de capitales comme Lille. Voilà, c'est sûr. Voilà, donc il y a tout à inventer, et là, il va falloir que tous les acteurs économiques, académiques, nouveaux, et surtout les acteurs des territoires bien, se réfléchissent avec chacun avec leur bonne volonté, c'est-à-dire mais comment on va transporter justement ces gens, comment on va faire en sorte qu'ils accèdent à la culture. Donc il y a un vrai beau défi et on a une chance, bah, c'est qu'Orbimop préexiste en fait. On a une chance, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur ce tissu-là pour pouvoir les construire ces solutions.
Oui, je connaîtrai, c'est très important pour nous, parce que nous, on est dans le dossier, et cette dynamique territoriale de nos centrales, elle est vraiment réelle. C'est notre, en tout cas, le premier dossier qu'on a déposé, le fait d'être finaliste, etc. On a eu des personnes, qui c'est humain, hein, qui ne croyaient pas, ou qui attendaient de voir, etc., et qui ont compris, enfin, le projet, et notamment l'ensemble des départements, pour l'activité aussi. Et donc, en fait, au fur et à mesure des mois, ça s'intensifie. Il y a de plus en plus d'envie et c'est très difficile qu'on a, parce que on n'imagine pas si on obtient ce titre l'effet que ça va avoir. C'est-à-dire que nous, on a rencontré beaucoup de gens à l'étranger, de Marseille. Il y a un effet qu'on attend, on l'obtient, et là, ça commence à, l'aventure commence, et ça dépasse. En fait, même ce qu'on a pris dans le dossier, que ce soit en équipe, d'abord on gère tout ce qui va être le plus. Il y aura énormément d'initiatives, et ça, c'est. Il faudra voilà, à la fois soutenir, etc. Mais tout le monde va prendre l'initiative. Les gens qui aujourd'hui attendent voir cette vont rentrer là-dedans. Parce qu'ils vont trouver, et notamment le programme que nous avons fait, on l'a imaginé tellement large. C'est-à-dire que tout le monde pourra prendre sa place dans ce dispositif pour justement qu'on puisse justement
acteurs économiques ou autres, etc., puissent rentrer dans le jeu, faire des choses, et en fait, cette multiplication de toutes ces dynamiques qui va créer vraiment une intensité forte. Même aujourd'hui, je n'imagine pas cette chose. Il y a certains projets qui vont voir le jour sans nous, forcément, et notamment le dossier dont on parle aujourd'hui. J'espère que ce sera un accélérateur très fort, puisqu'on n'imagine pas qu'à l'heure actuelle, notre liste en 2028, avec l'état de transport actuel, vous imaginez si la gestion des réseaux sociaux de tous, ne fait pas de la caisse, si en permanence on a le train en panne, le machin ne marche pas, le conducteur qui n'est pas là, ou je sais pas quoi, il va falloir que, je n'aurais pas donné une candidature de crise en permanence, de gestion en permanence, de dire si, venez, c'est que ça arrive de temps en temps, est-ce que les réseaux sociaux, si, c'est ça, en termes d'image, ça peut être très dévastateur. Donc, une autre préoccupation très forte, je veux dire, il y a 28, on aura 4 ans, 5 ans pour mettre tout ça en place, j'espère que ça va activer, et je pense que, comme disait le commissaire, le monde politique, vous l'avez dit, est réuni autour de vous, tout ce projet, je pense qu'on a la chance aussi, sur ce dossier-là, et le jury va aussi bien constater. Et c'est pas seulement quand ça se fait en réalité, quel que soit le bord politique, tout le monde, le bord politique, le rendez-vous de son mode capital. Et ça, c'est un élément essentiel, parce que c'est un des critères européens, c'est-à-dire comment le monde politique, parce qu'il y a aussi des élections municipales, régionales, etc., comment, à un moment donné, le politique s'empare de ce projet. Et nous avons la force de ça, de ces conditions, c'est que nous sommes tous réunis, et en novembre, on aura un grand rendez-vous politique autour des grandes régions, de l'ensemble des politiques et du monde économique. Donc, grande photo pour montrer à l'Europe, nous sommes prêts à accueillir cette capitale en 2028.
Oui, j'ai bien vu. Je tiens plus avant, mais j'ai bien vu. Ce qu'on fait, c'est en accompagnement de 2028 et cette après décision du 13, qui effectivement, on espère, sera tout à fait positive, c'est qu'on est un territoire qui se présente avec, je dirais, dans ses principaux points d'accès, je pense à l'aéroport par exemple, il faut que ce soit un pôle vraiment novateur. On peut le faire, de se donner un certain nombre. On va être excellent en tout d'ici 2028. Mais on peut projeter quand même une image d'un territoire qui a complètement embrassé le thème de la modernité et de la transformation. Je pense que c'est là. Je pense que du rail, on peut lancer un certain nombre d'initiatives d'ici 2028, justement, celles qui ne demandent pas beaucoup d'argent. C'est un défi. On veut être frugaux, parce qu'il y en a un frugaux. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Je pense que, en termes d'innovation de process, souvent, ça ne coûte pas très cher. On peut y aller. Comment on est cette image-là? Est-ce qu'on peut aussi imaginer, moi, je rêverais de ça, c'est qu'en 2028, en termes de transition électrique, pour moi, elle ne sera pas la seule, Mais enfin, elle sera, importante. Aurore et Pierre-François, est-ce qu'on peut se dire qu'en 2028, il y a de quoi lancer l'initiative pour que nous soyons une terre modèle en termes de dynamique d'électromobilité. Ça va les voir, ça.
Oui, alors déjà, une fois que le 13, vous serez, vous aurez gagné, nous, on pourra vous accompagner au niveau de la mer gouvernementale avec le programme Advenir Formation. Donc, c'est un programme de formation piloté par la Banque de France qui s'adresse notamment aux collectivités, également aux syndics de copropriété pour expliquer ce que c'est que la mobilité électrique. Pourquoi, comment, donc rappeler les grands enjeux, le bruit, l'air, le CO2, comment, qu'est-ce que c'est qu'une borne de recharge, les puissances, parce que c'est pas des sujets très grands publics, expliquer l'intérêt de, pourquoi installer des bornes de recharge. Pareil pour l'habitat collectif, comment installer des bornes de recharge dans l'habitat collectif, c'est plus simple dans sa maison, c'est moins simple dans l'habitat collectif. Et puis on a aussi un programme d'accompagnement sur, pour les établissements scolaires avec, Mobistart, donc c'est un MOOC, un cours en ligne qui s'adresse aux étudiants pour leur parler de ce nouveau secteur d'activité qui est en train d'émerger, les métiers qui vont en découler, qui parlent pourquoi la mobilité, etc. Donc déjà, nous, on pourra accompagner les territoires et les collectivités pour apporter de l'information, c'est sans coût pour les bénéficiaires, puisque c'est financé par les certificats d'économie d'énergie. J'ai oublié la question d'origine.
La question, c'était, peut-on imaginer en 2028, par rapport à l'armée nationale, que sont devenus vraiment un phare des dynamiques?
Oui, alors, il y a plein de politiques qui vont venir accompagner jusqu'à 2028. des nouvelles retranscriptions de droit européen en droit français qui vont arriver, puisqu'aujourd'hui on est sur 5% de places qui doivent être équipées sur tous les parkings ouverts au public. Ces 5% devraient se transformer en 10%, donc déjà faisons les 5% avant de penser aux 10%. Et voilà, toutes les lois sont là pour accompagner. Après, sur les territoires, il faut des gens. Que des gens puissent faire. C'est ce que vous faites déjà en Europe.
C'est ce qu'on essaie de faire. Pierre-François, la clé de l'électricité, c'est toi.
Enedis. Je vais me présenter, oui, Pierre-François, je suis directeur territorial d'Enedis, moi, du peu. Enedis qui exploite et entretient le réseau public de distribution d'électricité. Ok, bon, mais qui n'est pas propriétaire de réseau. Et je souhaite vous dire là-dessus. Le propriétaire des réseaux, ce sont les communes. Les communes se sont regroupées au sein d'un syndicat, en tout cas c'est vrai sur le Puy-de-Dôme, mais c'est vrai sur les 4 départements de l'Oise, sont que les propriétaires des réseaux. Mais ils sont aussi, ces syndicats, parfois, autorités organisatrices de la mobilité électrique. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à ce que les communes leur donnent la compétence de l'organisation de l'installation d'infrastructures de recharge en véhicule électrique. Donc, typiquement sur le Puy-de-Dôme, quasiment toutes les communes du Puy-de-Dôme, en tout cas les plus importantes, les autres, ont donné à un territoire d'énergie Puy-de-Dôme, ça a été dit tout à l'heure par mon point, ont donné cette compétence au syndicat d'électrification. Tout ça pour arriver à me dire que ce qu'a prévu le territoire d'énergie Puy-de-Dôme, puisqu'on va se concentrer sur ce Chaudet et sur Clermont-Ferrand et la métropole, il n'est pas prévu d'installation de bornes de recharge qu'on appelle rapide. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, à tort ou à raison, c'est le but de mon propos, c'est lui qui décide, d'organiser des installations de bornes de recharge, en fait, pour les gens qui habitent dans les villes et qui laissent leur voiture dans l'espace public. En clair, des gens qui peuvent recharger leur voiture pendant plusieurs heures. Ce qui veut dire, in fine, c'est juste mon propos, qu'ils ont laissé l'installation de bornes de recharge très rapide, donc pour la grande itinérance, au privé, et pas à la puissance publique. Donc, parce que 2028, c'est demain, on aura sur la métropole des bornes de recharge, certaines, mais qui ne seront pas faites pour faire de grandes itinérances. D'accord ? C'est pas comme les gens Tesla qui sont des hôtels, 150 kVA, où vous rechargez le Tesla en gros, 30 minutes et une demi-heure. D'accord ? Donc, ça, je pense qu'il est important de préciser. Y aura-t-il assez d'électricité ? Ben, je suis pas inquiet. Bon, ça, vu que c'est depuis longtemps, je l'ai dit depuis longtemps. Donc, c'est pas un problème. Juste pour vous dire, 1 million de voitures toutes électriques. 1 million de voitures électriques, ça consomme en un an 2 TWh. Et aujourd'hui, la consommation en France, c'est 460 TWh. Toute la consommation. D'accord. Donc, ceux qui disent qu'il n'y aura jamais assez d'électricité pour les voitures électriques, et tout ça, c'est faux. Il y aura largement assez. Le seul problème, c'est si tout le monde recharge en même temps. Et ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un pilotage du réseau qui se fera tout simplement, le pilier par quoi ? Par le fric. Parce que les fournisseurs d'électricité, moi je ne suis pas fournisseur, je suis distributeur, les fournisseurs d'électricité sont en train de créer des tarifs spéciaux aux véhicules électriques, d'accord ? Qui font que la charge sera étalée le long de la journée. Et on étalera le long de la journée en fonction du jour, puisque le lundi, c'est pas le samedi, les usages sont pas les mêmes le lundi et le samedi, à 8h du matin, c'est pas comme la nuit. On pourra étaler ces recharges grâce à un petit machin qui s'appelle le compteur Linky, qui lui est redaté, qui connaît le jour et l'heure. Tu connaissais pas les anciens. Patrick, il m'a fait ça tout à l'heure. Alors moi, je ne connais rien en train de dire. Je suis pas la SNCF. Mais j'ai cru comprendre que tu disais qu'il restait des choses à faire en cela. Est-ce que c'est la chute des arbres sur les cathédères ou est-ce que c'est l'alimentation électrique?
Je peux pas faire toute la liste, hein. La Sologne, comme c'est caricatural, pour ceux qui ont été coincés dans le train, j'ai pris comme exemple. Mais il y a toute une liste, ça passe par des passages à niveau à supprimer, ça passe par des réaménagements d'isolation, notamment de toute personne susceptible de traverser la voie, enfin, il y a 20 ou 25 points de répartition à prendre en compte.
Donc c'est pas de l'alimentation électrique en elle-même, mais quotidienne.
C'est
pas
ça.
C'est
la même chose.
Cette notion.
Je sais pas si j'ai répondu à des ou à des
autres. J'essaie de me placer dans la vie culturelle. Il y a le festival de la Jésus, puis le festival de la rue, à Oya, puis à tout ça tombe à des moments globalement différents. Je rêve, parce que moi je roule en réalité. Je rêve de pouvoir y aller, et puis j'arrive sur place, là, j'arrive à la Jésus, j'y étais l'autre jour, là, j'ai pas fait beaucoup de bord. Le moment du festival, qu'est-ce qu'il ferait qu'eux, avec des groupes électrogènes, aérogènes, des machins, tout ça, c'est fait. On puisse disposer d'une capacité. Et je crois qu'il faut qu'à un moment donné, si on veut avoir une image qui soit pas celle du plateau de fromage, il faut qu'on ait cette capacité à innover avec ce que la technologie permet de faire aujourd'hui. Et si nous le faisons, nous exporterons ces solutions. Alors, je suis un coup, et les Hollandais sont comme ça. On teste pour exporter. Oh, j'ai raison. C'est comme ça qu'on avance. Vous voyez, je dis, je prends mon bloc d'électrogène, je le mets chez eux, trois jours après, je le mets au Irak, quatre jours après, je le mets. Je rêve peut-être un petit peu, mais ça ne me paraît pas impossible. Et je dis, mais vous imaginez l'image que nous créons là, dans votre truc, le 13 décembre, hein, bah, si on sait qu'on peut le faire, tout explose. C'est faisable, ça.
Il y a des premières expérimentations qui sont
celles-là. Mais pas pour ce moment-là, c'est que la saison touristique, la saison culturelle, elle est variée. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires en février. Hein. Mais dès le mois de juin jusqu'à fin septembre, il faut être présent.
Alors j'ai parlé tout à l'heure du territoire d'énergie plus tôt, là, j'avais prévu donc d'installer des bornes de recharge. Mais j'ai parlé de la métropole pour les gens qui habitent dans la métropole et qui utilisent l'espace public pour quelques voitures. Mais il y aura aussi des bornes qui vont être posées et installées sur les lieux de loisirs et sur les lieux culturels.
C'est important qu'on juge bien ça avec
la règle. Mais il y a en 50 à Chine.
Non, mais non, c'est pas possible. Ça se justifie pas en permanence.
Et ça n'a pas de sens.
Non.
Ça n'a pas de sens parce que, une fois qu'on a une voiture électrique, ce qui est mon cas, et ce qui est mon cas, et ce qui est mon cas, on sait qu'on va faire quasiment toute une recharge de domicile. Et après, on s'organise pour faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de recharger, ou s'il y a besoin de recharger, on s'organise. C'est plus du tout la même chose. C'est la fin d'abondance à arriver sur un projet. Sur les groupes électrogènes et hydrogènes. Donc, Enedis a fait les premières expérimentations qui se révèlent effectivement positives, par contre, c'est vrai. Et alors, tout le monde connaît la difficulté de l'hydrogène, c'est en fait le stockage de l'énergie. C'est tout ça, vous expliquez. Enfin, rapidement, c'est la plus petite molécule qui existe au monde, l'hydrogène, donc par définition, elle est superfluidante. Et quand on veut la stocker, il faut la comprimer, il faut la comprimer sur plusieurs centaines de bars, plusieurs centaines de kilos par centimètre. Donc c'est extrêmement compliqué, techniquement, à mettre en place, et ça nécessite des investissements colossaux pour assurer la sécurité, puisque l'hydrogène est mal utilisé, les bombes à hydrogène, les bombes à hydrogène.
Mais tout ça, je parlais des usages professionnels, hein. Des gens qui installent des. Pas mal de public.
Donc, ça ne se fait pas comme ça, il y a des expérimentations qui sont en cours. Est-ce qu'on sera prêt de développer tout ça?
Voilà, je lance cette idée-là en disant, c'est notre rôle, là, hein, justement, d'essayer de travailler, de conserver, de se dire, il y a des batailles d'impact qu'il faut éviter. Des images, des choses comme ça qu'il faut arriver, et y compris avec le train, hein, l'électrique, etc., ou des différentes solutions. Si on a un territoire d'innovation, je pense que. Bon, merci. Hein. Noémie.
C'est merci, bonjour. Je m'appelle Noémie Becker, je travaille dans une association qui s'appelle Les Monts qui Pétillent, qui est active au-dessus de la montagne clermoise, à cheval sur le Puy-de-Dôme et la Loire. Et je voulais dire que pour les habitants de mon territoire, et comme beaucoup d'habitants du massif central et rural, il y a beaucoup de freins à l'accès à la culture. Il y a des freins il y a des freins en termes de moyens financiers des personnes, il y a des freins en termes de légitimité, est-ce que je me sens légitime à aller à différents endroits, et il y a la mobilité aussi. Et que du coup, il faut aussi vraiment réfléchir à l'accessibilité des Puy-de-Moix et des habitants du Massif central en général à cette offre culturelle qui sera, je l'espère et j'en suis convaincue, fantastique dans ce cadre-là. Et je pense qu'il ne faut pas attendre 2028 et qu'il faut commencer tout de suite. C'est des choses qu'on fait nous à notre petite échelle. On emmène des gens, on a amené des familles au planétarium de Saint-Étienne. C'était la première fois que ces gens-là se sentaient légitimes à rentrer dans un planétarium. Et pourquoi ça a marché? Parce qu'on leur a dit, venez-nous, on affrète des minibus, on y va ensemble, on vous y emmène. Et donc, du coup, on se sent légitime à y aller. On va refaire la même chose avec les enfants, avec les tout petits, pour aller à Villefort aussi, à Clermont-Ferrand, avec les petits, pour montrer aux familles que oui, la culture, ça commence avant 6 ans aussi. Et que oui, vous avez le droit, et c'est gratuit en plus une fois, vous pouvez y aller. Voilà. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire aussi là-dessus, sur essayer de lever ce frein supplémentaire à tous les autres freins qui existent, qui est la mobilité, et donc mettre en place des choses qui aident les gens à ne pas se dire, ah, oh, c'est loin, et puis on peut pas conduire, il n'y a pas de transport, etc.
C'est une jolie initiative. Bon, on arrive un petit peu à la fin de notre table ronde. Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers que vous aimeriez faire, de sujets qu'on ne devrait pas aborder? Moi, j'ai bien entendu que le dossier est écrit. J'espère qu'on va y avoir accès. Le nom est net, hein, ça m'inquiète. Bon, on ne va pas attendre le 13 décembre quand même. On va attendre le 13 décembre.
Je suis désolé. La première fois, on l'a déposé, on l'a mis immédiatement en ligne. On va être content que ça va être 1500 téléchargements. Donc c'est quand même énorme, parce que sur le dossier de ça. Et cette fois-ci, j'ai été un mode plus. Une stratégie différente. Plus secret, c'est-à-dire que le bruit ne peut pas beaucoup circuler, nos concurrents ont eu accès très rapidement, plus tôt que prévu, et cette fois-ci, personne n'a accès. Tout est déroulé, et on imprime, on dépose au ministère, et après on attend de voir quelle date on va diffuser. Au mois de novembre, on le met, et je pense que ce sera le plus tard possible, cette fois-ci, la stratégie de prévu.
Soit peut-être pour toi,
j'ai un petit peu de Michel Michel, j'ai pris chez Akaro, j'ai pris un petit peu les techniques Michel, alors on garde secret. Non, avant,